anymore, prisoner fool!
D'une des nombreuses conquêtes de Zeus. On parle aujourd'hui de celle qu'on trouve sous le nom de Minerve chez les Romains. On parle d'Athéna. En réalité, Athéna est la fille de la toute première femme de Zeus, Métis, une océanide qui est à la base la déesse de l'ingéniosité. Mais Métis, elle n'a pas fait long feu. Un oracle a déclaré que si l'enfant qu'elle portait était un fils, eh bien ce fils détrônerait Zeus. De la même manière que Zeus avait lui-même détrôné Cronos, son propre père, et que Cronos avait lui-même détrôné son propre père à lui, Ouranos. Et bah du coup, Zeus, il décide de mettre en place la même stratégie que son père Cronos à l'époque. Preuve que ça a bien marché, hein. Cette stratégie, c'est de bouffer le danger. Si, rappelez-vous, Cronos, il a mangé tous ses enfants pour pas se faire détrôner. Résultat, il a été détrôné. Et même si Zeus affirmait que Métis le conseillait de l'intérieur de son ventre, eh bah, je suis pas sûre qu'il ait eu assez d'intelligence pour retenir que cette stratégie, eh bah, elle était déjà vouée à l'échec. Enfin bref, vous l'aurez compris, il l'a mangé. Il est conseillé par sa femme à l'intérieur de son bide, et à un moment donné, on pourrait croire que Zeus, il est vraiment en train de faire une indigestion. Parce qu'il a mal à la tête, mais un mal de tête pire qu'un lendemain de soirée. Du coup, il va voir Héphaïstos, le dieu forgeron, et il lui somme de lui ouvrir la tête avec un coup de hache. Nickel, Zeus. Encore une superbe idée. Mais dans tous les cas, comme Zeus, bah, c'est un petit peu le chef de tous les dieux, eh bien Héphaïstos s'exécute, et en lui assonnant ce coup de hache, eh bien c'est ce moment que choisit Athéna pour jaillir déjà toute armée de la tête aux pieds, en poussant un cri de guerre phénoménal. Très vite, elle rejoint les dieux de l'Olympe, où elle prend une place très importante. L'Iliade, l'Odyssée, comme les hymnes homériques, la représentent comme la favorite de Zeus, celle à qui il ne peut rien refuser. D'ailleurs, tout comme son père Zeus, elle tient l'égide et peut lancer la foudre et le tonnerre. Représentée par la chouette, elle s'impose et en vient à symboliser la civilisation grecque au cours des siècles, et ce jusqu'à nos jours. Même si elle est née toute armée, Athéna, au temps de paix, ne porte absolument aucune arme. Et quand elle en a besoin, eh bien elle emprunte généralement celle de Zeus. La chance. Athéna, elle décide de rester vierge, et n'a donc aucune conquête connue à ce jour. D'ailleurs, elle est un petit peu sévère, voire limite frigide avec ça. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que Zeus l'aime bien. Si lui peut pas la voir, personne ne peut la voir. Si Athéna est une déesse civilisatrice, elle manque un peu parfois de civilité. Et oui, hein, on se rappellera toujours de ce que la gorgone Méduse a enduré. Vous vous souvenez pas ? Je vous rafraîchis la mémoire. Il fut une époque où Méduse avait une chevelure resplendissante. Elle a tisé l'amour et l'attirance, tout simplement, charnelle d'autres dieux. Du coup, Poséidon, qui est un petit peu chaud, décide d'embarquer Méduse directement dans le temple d'Athéna. Une fois le lieu d'intimité trouvé, Poséidon viole tout simplement Méduse. Athéna, outrée de ce comportement, ne va pas non plus punir Poséidon, mais va punir Méduse. Et c'est donc bien Athéna qui va changer la chevelure exquise de Méduse en chevelure de serpent. De toute façon, à l'époque, tout était la faute des femmes. Par exemple, là, le viol de Méduse, c'est la faute de Méduse, c'est elle qui en pâtit. Mais dans l'histoire, on peut aussi lire que Poséidon et Athéna se bataillaient pour avoir la protection d'Athènes. Pour avoir les faveurs du peuple, Poséidon fait apparaître une source d'eau salée. Athéna, elle, choisit de faire apparaître un olivier. Et à ce moment-là de l'histoire, tout le monde, absolument tout le monde, pouvait voter. Même les femmes. Et les femmes, elles préfèrent l'olivier. Et elles remportent le vote à une voix près. Vexé parce que, franchement, c'est pas cool, Poséidon submerge l'Attique sous des flots. Et pour apaiser sa colère, les Athéniens doivent imposer 3 punitions aux femmes. La première, les femmes n'auront plus le droit de vote. La deuxième, aucun enfant ne portera le nom de sa mère. Et enfin, la troisième, les femmes ne seront plus appelées athéniennes. Et Athéna, là, elle n'a d'autre choix que de laisser faire. Du moins, j'imagine. Comme son frère Hermès, ou du moins son demi-frère, elle se charge souvent de protéger les héros. C'est le cas dans la guerre de Troie, où après avoir été refusée par Paris, dans le jugement du mont Ida, elle prend parti pour les Grecs. Athéna protège alors tout particulièrement Diomède. Après la guerre, elle va protéger Ulysse et surtout Télémaque sur les traits du Mentor. Elle aide aussi Héraclès à accomplir ses 12 travaux et Persée à tuer Méduse. Après lui avoir transformé les cheveux en serpent, elle utilisera d'ailleurs la tête de Méduse pour décorer son égide. Trop fun, wouhou! Contrairement à Arès, dieu brutal, dieu de la guerre, surnommé le buveur de sang, Athéna, elle, incarne l'aspect plus ordonné de la guerre. La guerre qui obéit à des règles, celle qui se fait en certains lieux, à certaines périodes et entre les citoyens. Le combat à proprement parler. Si on a pu voir ensemble d'ailleurs dans le portrait d'Arès que ces deux-là se battaient souvent l'un contre l'autre, Athéna, elle, n'a jamais perdu une bataille face à Arès. Bah oui, elle possédait toujours une meilleure connaissance de la stratégie. Mais outre la stratégie, Athéna, elle est pleine de ressources. Enfin, visiblement, hein, puisqu'elle est la sagesse, la guerrière, elle a aidé les hommes pour les dons de techniques agricoles, elle est la protectrice des artisans et des travailleurs, tout ce qui est cousu et filé, c'est aussi son domaine, elle est la protectrice de la santé familiale. Bref, Athéna, c'est un petit peu le sang, quoi. Hein. Même si finalement, comme tous les dieux et déesses grecques de l'Olympe, elle est un petit peu susceptible. Par exemple, elle va transformer Arachné, une jeune femme originaire de Lydie, qui va se vanter de mieux tisser qu'elle, en araignée. Bon, si bon nombre de mythes racontent l'histoire sous cette forme, en réalité, c'est un petit peu plus complexe. En réalité, ces deux jeunes femmes, Athéna et Arachné, organisent un concours pour départager si c'est Athéna ou Arachné qui est la meilleure tisseuse. Le résultat ? Aucune différence frappante. Mais Athéna, eh ben, elle est jalouse et fait un petit peu un caca nerveux. Elle déchire alors l'ouvrage de sa rivale et la frappe au visage. Arachné est tellement humiliée qu'elle décide de se pendre. Et Athéna, qui ne la déteste pas autant, décide d'offrir une seconde vie à Arachné. Mais cette fois-ci, sous forme d'araignée, pour qu'elle puisse continuer de tisser. Quand même un petit peu mieux comme fin, bien que peut-être un peu plus glauque. Ah, Athéna, Athéna, Athéna. Visiblement une déesse qui a tout pour soi.